Voilà maintenant pour comprendre la vision nouvelle que nous va apporter l'étape turquoise sur la spirale dynamique. Comme c'est la deuxième étape du deuxième tour, nous allons tenter de comprendre la deuxième étape du premier tour, donc l'étape de la vision de nos ancêtres animistes, entre guillemets, la vision du monde de nos ancêtres celtes, pour les gens qui, comme moi, habitent en Suisse romande. Donc, pour comprendre cette civilisation, il ne nous reste pas grand-chose en fait. Je suis allé dernièrement, il y a une dizaine de jours, voir encore un tumulus avec des cadavres qui traînent. Il existe des dolmens aussi. Donc ça s'étale encore sur des millénaires auparavant aussi. Il n'y avait pas que des Celtes. Et pour comprendre, les archéologues y vont, là je les ai vus, ils étaient avec un petit aspirateur, aspirer des petits bouts de terre pour bien faire net, place nette à la brosse à dents et enlever des petites pièces. Et on comprend beaucoup de choses. Les archéologues font un travail magnifique, mais dans la compréhension globale, il manque toujours un peu quelque chose. À Yverdon, par exemple, il y a un superbe alignement de menhirs, et si je vais là-bas, je me demande à quoi ça sert? Eh ben là, on ne sait pas trop. Et très souvent, on invoque, quand on ne sait pas trop, les archéologues aiment bien parler de oh, c'était religieux, c'était leur croyance de l'époque. Ça nous avance des fois pas beaucoup plus, parce que un peu tout ce qui est irrationnel n'est pas très logique, c'est une croyance, alors que il se peut qu'il y ait quand même des choses qui soient assez logiques, et des choses qui se construisent naturellement, des choses que les archéologues ne voient pas toujours. Ça commence un peu, mais c'est vraiment pas la vision majoritaire. Alors je vais t'expliquer ça tout de suite après, qu'est-ce qu'ils voient pas. Mais alors, d'abord, je vais t'expliquer que tout ça m'est venu. Parce que j'ai découvert les travaux de Stéphane Cardinaux, qui est un architecte vaudois, qui a beaucoup, comme il est architecte, il s'est beaucoup penché sur les bâtiments et sur la construction des bâtiments, et il s'est passionné pour les bâtiments anciens et comment les anciens construisaient les bâtiments. Il faut préciser que maintenant, si je dis je construis une maison, bah, quelle longueur je vais faire? Oh, 15 mètres sur 12, ce sera très joli comme maison. Là, voilà. Puis on a le mètre, et on a 15 et 12, et on met des chiffres, et puis après. C'est pas du tout de la même manière qu'on construisait à l'époque. Alors, il faut déjà distinguer les maisons courantes des grands bâtiments qui sont durables, qu'on a envie de faire des monuments. Et là, ben, Stéphane Cardinaux nous dit dans son bouquin, alors là c'est basé sur la racine de 2, il y a un schéma régulateur, ici c'est sur le nombre pi, ce genre de choses. Et c'est toujours assez ésotérique quand on commence à parler comme ça. Alors c'est basé sur la racine de 2 et le nombre pi. Alors, il se trouve que c'est des nombres irrationnels avec plein de virgules qui n'en finissent jamais. Que pi, on pense tout de suite à 3,14592, etc., jusqu'à l'infini. On se dit, ouh là là, attends, à l'époque, ils ont quand même pas fait des calculs si compliqués pour arriver à faire quelque chose de si. Un bâtiment. Non, là, ça joue pas. Ils disent, non, 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 ils ne connaissaient pas les nombres à virgule. Mais c'est tout à fait bête de penser comme ça, parce que les gens de l'époque ne pensaient pas du tout ainsi. Le nombre pi, il faut se rendre compte ce que c'est juste un rapport qu'on trouve dans n'importe quel cercle, que n'importe quel enfant qui fait un cercle, il va utiliser le nombre pi même sans s'en rendre compte. C'est un rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. C'est pas plus que ça. Donc il est très facile de faire quelque chose basé sur le nombre pi. Dès le moment où on fait inclure des cercles, c'est là-dedans. Et la racine de 2, c'est pareil. La racine de 2, finalement, dans l'Antiquité, les gens faisaient de la géométrie, ils ne connaissaient pas les nombres à virgule. Alors on va pas inventer des choses compliquées. Donc racine de 2, c'était tout simplement la diagonale d'un carré. Si on fait racine de 2 qui multiplie le côté du carré, on obtient la longueur de la diagonale d'un carré. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc à force d'essayer de trouver quels étaient les schémas régulateurs, d'essayer de trouver en fait. Comment fonctionnaient ces bâtiments, sur quoi ils étaient basés? Ben Stéphane Cardinaux a réussi à avoir une compréhension assez poussée de tout ce qu'il y avait derrière ces bâtiments et pourquoi ils sont posés de telle manière à tel endroit. Et il a découvert des choses encore plus loin. Et tout ça, ben souvent, on retrouve des pierres angulaires comme la cathédrale de Fribourg. En entrant sous le porche directement, on voit deux pierres en granit qui sont vraiment paf! Bien distinctes des autres. On voit que ce n'est pas du tout les mêmes matériaux, c'est le pavement de base. Elles ont été mises là après la construction parce que c'était les bases qui, des dimensions, des proportions qu'on avait envie d'utiliser un peu partout. Donc on redéfinissait un étalon de longueur. Donc c'est notamment la coudée royale égyptienne, le pied romain, le pied druidique, ce genre de choses, qui étaient des standards, mais qui étaient redéfinis de manière assez propre à des proportions qui vont dans une pierre angulaire qu'on décide et qu'on utilise pour toute la comme base de la construction d'un édifice. Et donc Stéphane Cardinaux nous montre un peu toutes ces choses-là et il a notamment fait un travail sur le temple des planches à Montreux, qui se trouve juste à côté de chez moi, que j'ai aussi visité. Et c'est vrai que c'est une église assez spéciale, parce qu'elle est posée sur un éperon rocheux, elle est coincée entre un bout de falaise et un autre précipice. Et puis, elle a une forme, c'est une forme qui est un peu tout carré bossu. Elle a un chœur, elle a une nef, elle a aussi un clocher avec un portail d'entrée, mais en même temps, elle n'est pas droite. Un architecte, il se dit, ben, on fera un truc simple, on le met à un endroit simple. Mais en même temps, ici, ben, c'est compliqué. On dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait si compliqué? Ils étaient bêtes. Mais en fait, pas du tout. C'est que là, on a des choses qu'on ne voit pas au premier abord et que Stéphane Cardinaux a creusé un peu plus. C'est tous les phénomènes telluriques. Les phénomènes telluriques, les courants telluriques, les réseaux telluriques, les réseaux Hartmann, par exemple. Et si on prend en compte ce genre d'informations, on comprend tout de suite la forme du bâtiment. On sait pourquoi elle est pliée, pourquoi elle est un peu tordue. Tout d'un coup, ça prend un sens et on voit que ça n'a pas du tout été fait au hasard et c'est pas parce que l'architecte buvait un peu trop et qu'il voyait de coin. Non, non, c'est vraiment quelque chose fait précisément. Et tous les bâtiments, Stéphane Cardinaux a passé au crible tous les bâtiments anciens de Suisse romande et il a découvert que ils sont tous conçus selon ces principes, en tenant compte des phénomènes telluriques. Et tous, jusqu'en 1350. En 1350, il y a eu un événement qui fait que des connaissances se sont perdues. Et qu'est-ce qu'on découvre? 1350, c'est la date de la grande peste en Europe. Il faut se rendre compte que c'était assez terrible. C'est un peu comme si c'était la fin du monde. En 1350 et les années un petit peu avant, un petit peu après, il y a l'équivalent, on estime, entre le tiers et la moitié de la population européenne qui est décédée de la peste, qui a disparu. Donc on peut imaginer que c'est tout à fait plausible que des connaissances particulières qui étaient détenues par un nombre assez restreint de la population aient pu être totalement disparaître à cause d'un événement de ce style. Et du coup, on a perdu des informations. Et là, voilà que Stéphane Cardinaux nous permet de recomprendre et de remonter dans le temps, de comprendre que ces phénomènes telluriques sont au cœur des constructions des anciens. Donc, n'importe quel bâtiment, il reste des églises anciennes et des lieux où on trouve des menhirs, des cromlechs, tous des lieux celtes. Donc, quand on remonte dans le temps un peu plus, et c'est là qu'on trouve des choses intéressantes. Et les Romains aussi construisaient comme ça. Et l'exemple du fanum gallo-romain de Ria, dans le canton de Fribourg. Il était malheureusement juste sur le tracé de l'autoroute. Du coup, il était déplacé d'une dizaine de mètres pour qu'il soit à côté de l'autoroute, qu'on conserve ce patrimoine. Et en fait, en le déplaçant ainsi, on comprend, on voit le bâtiment, on se dit c'est chouette. Et quand on veut observer les réseaux telluriques, quand on mesure les réseaux telluriques, on voit, on retrouve qu'ils ont été adaptés au mur même de ce fanum, mais 10 mètres à côté, donc là où il était à son emplacement originel. Donc il y a des choses qui ont été faites et on arrive à les mesurer, on arrive à voir que il y a quelque chose. Alors dans ces phénomènes telluriques, il y a aussi des cheminées, des vortex. Alors Stéphane Cardinaux nous montre que tous les donjons des châteaux sont construits sur un vortex. Alors des fois il y a des emplacements étranges, mais ça se comprend tout de suite pourquoi ils l'ont mis là quand on dit ah bah c'est le seul endroit ici dans un rayon de 500 mètres où il y a un vortex. Donc le donjon il pouvait être que là, même si c'est un éperon rocheux pas facile, qu'il aurait été plus simple de le mettre 10 mètres à côté. Non, c'était plus pareil. Il fallait le mettre sur un vortex. Donc quand on reprend l'analyse des planches, on voit qu'il y a un vortex au centre du cœur qui est posé sur un croisement du réseau tellurique Curie, un croisement de niveau 3 qui est assez rare, et que ce croisement arrive en plus. Il y a une superposition entre un vortex, une cheminée, ce croisement et encore un courant tellurique en dessous. C'est un endroit exceptionnel. On n'en trouve pas deux comme ça dans un rayon de 30, 40, 50 km à la ronde. Donc c'est tout à fait compréhensible là qu'ils aient été construire ce temple dans cet endroit perdu sur une colline, coincé entre une falaise en dessus, une falaise en dessous, puis d'avoir fait un bâtiment qui épouse la forme de la falaise plutôt que de l'avoir fait droit. C'est tout à fait normal quand on voit les phénomènes telluriques qu'il y a là en dessous. Et puis, les phénomènes telluriques, on voit qu'en fait, jusqu'en 1350, tous ces réseaux Hartmann, ils sont mis dans les murs. Ils sont adaptés, ils sont déplacés pour que ça colle au mur. Et puis avec des alternances, il y a encore des réseaux positifs et négatifs, et ils sont toujours collés. Et on voit toute une structure, un déplacement. C'est un truc absolument magnifique. Alors je vous invite à aller regarder directement dans les bouquins de Stéphane Cardinaux. Il a fait des plans magnifiques qui montrent tout ça. Et là, on comprend vraiment comment ça a été construit et pourquoi ça a été construit comme ça. Et c'est ce qui permet de comprendre aussi que des lieux chrétiens, ils ont été construits par-dessus des lieux romains, qui eux-mêmes ont été construits par-dessus des lieux celtes, qui eux-mêmes ont été construits par des lieux probablement encore plus anciens. Donc ça s'est transformé au fil du temps. On a toujours quelque chose de plus compliqué, de plus construit, mais le lieu est resté le même. Pourquoi on l'a pas construit à côté? Pourquoi on l'a construit par-dessus? Alors souvent dit que ben, c'était pour éliminer la croyance précédente. Mais c'est oublier qu'il y a les phénomènes telluriques qui étaient déjà là, donc ça se justifie de superposer. Et ça permet de comprendre plein de choses pour les archéologues. C'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les archéologues. Par exemple, les menhirs de Corcelles-Préconcise dans le canton de Vaud, on a une espèce de terrain de foot. Il y a deux menhirs de chaque côté qui font un peu les buts. Puis c'est un peu compliqué à comprendre qu'est-ce que ça pouvait bien être. Alors il se trouve que sur un des menhirs, c'est marqué que c'est une reconstitution, il est gravé. Il y a 150 ans, il a été redressé et on a remis une pierre là pour faire cette symétrie de but de terrain de foot, mais en fait qui a strictement rien à voir avec la construction originelle. Et là, ce qu'on comprend en observant les réseaux telluriques, c'est qu'encore une fois, comme au temple des planches, on a un croisement d'un lieu précis qui se trouve au milieu de ces quatre menhirs. C'est un croisement tellurique Curie, aussi de niveau 3, avec un vortex qui est posé juste là au milieu, et une cheminée qui est aussi posée, centrée là au milieu. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les menhirs sont sur le pourtour du cercle de la cheminée. Donc c'est-à-dire que c'était pas des simples menhirs, mais que ça devait être un endroit où il y avait un cromlech, c'est-à-dire un cercle de pierre. Alors, le plus célèbre, c'est certainement Stonehenge, qui est un grand cercle de pierre. Et donc, là, on comprend le fonctionnement de cette chose. On se dit que c'est un grand cercle et c'est pas un alignement de menhirs, c'est pas un alignement, c'est un cercle. Et là, on comprend tout de suite mieux l'esprit de la construction que voulaient les bâtisseurs de ce genre de choses. Donc, c'est déjà un début. Mais alors, Stéphane Cardinaux a écrit Géométrie sacrée, du corps humain, des phénomènes telluriques et de l'architecture des bâtisseurs. Il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3. Il a écrit encore d'autres livres après. Alors, si c'est vraiment le bouquin à voir, si j'ai un bouquin à recommander ou une suite de bouquins, c'est vraiment celle-là. Il me permet de comprendre vraiment ce qu'est finalement la géobiologie et tout ce que ça amène. Donc, la géobiologie, c'est justement cette entre guillemets science parce que qui nous permet de comprendre ces phénomènes telluriques et comment ça fonctionne et quels sont les liens entre les humains et ces phénomènes telluriques. Alors je disais entre guillemets science parce que si on va voir sur Wikipédia, on nous dit que c'est une pseudo-science, que ça n'existe pas, que la géobiologie oublie, ça n'existe pas. Et quand on en voit On a l'esprit un peu plus ouvert, qu'on fait des tests soi-même, qu'on va voir des gens. On remarque qu'en fait, la géobiologie, ça fonctionne très bien, qu'il y a beaucoup de choses qui sont méconnues, et que le qualificatif de pseudo-science est tout à fait faux. On devrait plutôt dire que c'est une parascience, une science qui est un peu en marge, qui est en devenir, et on retrouve gentiment des choses qui existent. On arrive à mesurer. Il faut vraiment garder l'esprit ouvert. Alors c'est ici que j'ai l'impression que je risque de perdre des auditeurs qui vont se dire, ah, qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Non, 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 alors il faut vraiment écouter jusqu'au bout ce que j'ai à dire. Alors je te propose de garder l'esprit ouvert, c'était dans mes maximes. J'ai continué. Et je trouve un exemple intéressant, c'est par exemple des autostéréogrammes. Ces bouquins avec l'œil magique, où il suffit de loucher un petit peu, et puis sur une espèce de texture sur laquelle on voit rien du tout, tout d'un coup, c'est oh! Il apparaît une forme en relief, et il y a quelque chose en 3D qui vient. Donc tout d'un coup, les choses qu'on croit connaître ne sont pas ce qu'elles sont, ne sont pas ce qu'elles semblent être. Alors, ce qu'il faut, c'est avoir une approche quand même protocolaire. Faire des expériences qui sont reproductibles. Et c'est ce que Stéphane Cardinaux, avec son bon esprit scientifique, d'architecte, qui a mis en place ces protocoles et qui fait des expériences qui sont reproductibles. Et dans la science, tout ce qu'on demande, c'est souvent, c'est la reproductibilité des expériences. Donc si on arrive à prouver qu'une expérience est reproductible, scientifiquement, dans le peut dire que ça marche. Alors après, les scientifiques se disent scientifiques en étant rationnels, mais il y a plein de croyances. Souvent, des scientifiques ne veulent pas croire à la géobiologie, donc ils disent que ce n'est pas scientifique. Alors que s'il existe des expériences reproductibles, c'est scientifique. C'est juste qu'on ne comprend pas encore tout. Mais c'est comme les ondes électromagnétiques, on ne les voit pas. Mais on les utilise hein, tout le temps. Donc il y a des choses, les ondes radio, quand elles passent, ça m'empêche pas, si je les vois pas, de pouvoir écouter la radio, de pouvoir téléphoner avec mon téléphone portable. Mais là, on arrive à faire des expériences reproductibles, donc ça marche. Donc là, c'est vraiment, je t'incite à avoir l'esprit ouvert. Enfin, pas faire le scientifique dogmatique qui dit ça rentre pas parce que je connais pas. L'impression de savoir, c'est le meilleur obstacle à la connaissance. C'est souvent ça. Et on observe dans une université qu'il y a des traitements très 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 différents, qu'elle est très ouverte sur certains domaines et très fermée sur d'autres, et que d'une faculté à l'autre, on n'utilise pas les mêmes principes. Par exemple, en psychologie, on fait des expériences, on dit statistiquement, alors si le bouton il est rouge, hein, sur PayPal par exemple, ils ont remarqué qu'il y a plus de gens qui payent quand le bouton il est un peu rouge-orangé que quand le bouton il est bleu. Alors voilà, c'est une expérience de psychologie. On se dit qu'il y a 60% de gens qui vont cliquer là-dessus et pas sur l'autre. Alors, on fait la même chose hein, pour voir si c'est une expérience reproductible ou pas. C'est un peu flou, c'est pas les sciences mathématiques pures et dures. C'est pas la physique qui fonctionne dans tous les cas, mais de temps en temps, hein, c'est les sciences dures et les sciences molles. C'est assez intéressant de voir ça. Parce que les maths, bon, il y a une règle, tout est logique. La physique, c'est logique, mais il y a des expériences physiques qui vont avec. Et l'expérience montre des choses différentes parfois. Et on découvre des choses, on remet en place des modèles qu'on croyait être vrais et qui ne sont pas vrais. C'est le principe de la science aussi, c'est toujours remettre en cause ce qu'on pensait être vrai, notre modèle. Il y a des modèles qui se rentrent dedans, on sait qu'ils ne sont pas compatibles. La lumière, par exemple, on peut la considérer comme comme des corpuscules de photons, ou bien on peut la considérer comme une onde électromagnétique. C'est deux modèles totalement différents. Mais on utilise les deux pour se représenter ce qu'est vraiment la lumière et dont on ne sait pas vraiment parce que on a deux modèles pour se les représenter et suivant les utilisations, on utilise un modèle ou un autre. Si on va toujours dans une université, après les maths, après la physique, on a la chimie, c'est un peu des recettes de cuisine. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas bien. Puis ensuite, on arrive dans ce qu'on appelle les sciences humaines, hein. C'est toujours des sciences, mais comme je disais, la psychologie, c'est un peu plus flou des fois. Et puis la géographie, elle change. Et puis l'histoire, on la réécrit. Donc c'est de plus en plus flou. Les sciences économiques, hein, si c'était vraiment une science dure, je crois pas qu'on verrait tous ces cracks économiques et crises financières. Là, on a beaucoup de croyances qui sont là-dedans. Puis, on peut encore aller dans le plus mou possible et on arrive dans une université. Il y a aussi des facultés de théologie. Alors la théologie, là, on arrive vraiment dans les croyances. Et ça reste toujours dans une université. Mais alors après, il faut pas tout mélanger, hein, c'est toujours ça. Tout est lié, c'est aussi dans mes maximes. Alors que là, en fait, on a des spécialistes de physique, des spécialistes de chimie, des spécialistes de maths, puis des spécialistes de théologie. Et s'ils commencent à tout mélanger, si un scientifique, ils disent tous scientifiques, c'est des sciences humaines, des sciences sociales, des physiques, chimie et tout. Et si on commence à avoir un physicien qui dit, bon, alors j'ai un projet pour étudier la nature de l'âme, ben, celui-là, il va certainement avoir ses crédits complètement coupés. On lui dira, vous n'avez pas le droit de faire ce genre de recherche, c'est pas scientifique. Mais alors, dans la même université, il y a des gens qui parlent de la nature de l'âme dans la faculté de théologie, et eux, on leur coupe pas leur crédit. Moi, je comprends plus. Là, il y a quelque chose. Faudrait se mettre d'accord, hein. Donc, en fait, la science, comme on dit maintenant, c'est devenu une espèce de grande croyance aussi, avec une foi, une religion. Il y a ses curés et son clergé. Il y a des prix Nobel qui sont comme des saints qu'on met en avant. On dit alors ce prix Nobel a dit ça, donc c'est le saint des saints. Et puis il y a des temples, et on va faire toute une culture de religion en fait. Donc finalement, la géobiologie, moi je me dis pourquoi pas. C'est quelque chose qui fonctionne. Je l'ai expérimenté personnellement. Je sais que ça marche. Je ne sais pas comment, mais je sais que ça marche. Depuis mon adolescence, je me balade dans ma chambre. J'avais découvert un bouquin qui parlait de géobiologie, des réseaux Hartmann. Je ne sais pas de quoi c'est fait, comment c'est fait. Mais il est certain que quand je crée mes petites baguettes de métal, que je plie des espèces de petites équerres, que je plie et que je me balade avec, et que j'avance du nord au sud, du sud au nord, pouc, au bout d'un moment, ils se croisent, schling, ça marche, et puis ça se passe. Et tous les 2 mètres, j'ai un croisement quand je me balade du nord au sud, puis tous les 2 mètres 50 quand je vais d'est en ouest. Fantastique, ça marche, c'est génial, je vois ça, je ressens ça avec mes baguettes. Il y a des lignes du réseau Hartmann. Et il se trouve que ben, c'est une technique que mon grand-père utilisait aussi. Dans la campagne fribourgeoise, il s'occupait du réseau d'eau de sa commune, et puis il allait suivre les conduites d'eau avec ses baguettes, les mêmes choses, baguettes de sourcier, comme ça. Et ça fonctionne. On ne sait pas comment, mais ça marche, et on arrive à faire des expériences qui sont reproductibles. Alors il y a des gens qui sont plus ou moins forts hein, dans ce genre de choses, mais on n'est pas tous champions du 100 mètres, hein. On a tous nos spécificités. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Alors là, il semble en fait que les Radmasters, comme j'utilise, c'est pas les baguettes elles-mêmes, c'est pas ces petits bouts de métal qui se croisent vraiment, qui détectent ça, mais c'est plutôt mon corps à moi, c'est le corps humain qui détecte ça et qui fait que ben, on se crispe un peu plus, il y a des bouts de muscles qui avancent et on a une réaction. On peut observer ça avec de nombreux appareils, hein, avec la résistivité électrique du corps humain. Elle change suivant où on se situe, suivant si on se trouve sur un nœud, donc un croisement de ce réseau Hartmann, ou encore les autres réseaux qui existent aussi, parce qu'il y a plusieurs réseaux. Donc on peut observer par des appareils électroniques des variations de physiologiques du corps humain. Mais c'est toujours le corps humain qui sent, et on ne sait pas trop comment il sent, mais on sait qu'il sent. Alors on essaye de trouver des appareils qui sont indépendants du corps humain. Ce qui n'est pas forcément facile, mais il en existe un, qu'on appelle le sonotest. C'est une espèce de petit diapason qui vibre. Comme tous les diapasons, il fait un son, et on arrive à le passer. Et en fait, avec les oreilles, quand on entend une sorte de phénomène de battement, quand il traverse une espèce de mur de réseau tellurique, le son change. On a l'impression d'avoir Le son va tourner dans l'espace, en fait. Il va passer d'une oreille à l'autre. C'est un peu la même chose que quand on a un diapason, puis qu'on tombe sur le la, et puis qu'on veut accorder sa guitare, on a aussi le machin, là, la corde elle vibre, et puis au bout d'un moment, quand on sent que les deux s'accordent sur la même fréquence, les ondes sonores, ben, on a un phénomène de battement qui fait tindin, 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 tindin. Et là, on arrive à savoir. Donc Stéphane Cardinaux a fait beaucoup de tests comme ça, avec des sonotests, ce petit diapason en quelque sorte, et il l'a branché sur un oscilloscope, appareil électronique, pour pouvoir avoir un enregistrement visuel de ce que ça donne aussi. Pas que ce soit l'oreille qui écoute, mais que ce soit un appareil électronique. Et avec ça, on a un outil indépendant du corps humain et qui lui aussi mesure les mêmes phénomènes. Et on arrive à... On ne sait pas trop comment ça marche, mais ça marche. Et ça, c'est assez impressionnant, mais maintenant, je peux plus nier que ça existe. Alors Stéphane Cardinaux, lui, il a encore toute une histoire. Et c'est là que je préfère encore laisser découvrir toute cette histoire. Tu pourras écouter, j'ai mis des interviews audio qui sont en lien sur mon site, donc sur marteauf.ch, qui a toujours l'interview de Stéphane Cardinaux qui explique qui il est, comment il fait pour découvrir ces choses. Et là, alors, on tombe complètement dans quelque chose qui devient tout à fait incroyable. On va beaucoup plus loin que ces réseaux Hartmann. On arrive à avoir une compréhension où il nous explique qu'il va visiter des maisons parce qu'il y a des gens qui se sentent mal et que tout d'un coup ils croisent des fantômes. Il y a des notions de temps, de futur, de passé. Et tout d'un coup, ça fait penser vraiment à la voyance, ces gens qui disent qu'ils arrivent à prévoir le passé, le futur et mélanger tout ça. Et puis, les esprits de la nature sont de nouveau présents. Il y a les nains, les gnomes, les trolls, les elfes. Alors voilà, on passe à quelque chose qui est tout à fait scientifique. Tout d'un coup, on tombe dans un monde, waouh, on se dit, waouh, dans quoi j'entre? Mais quand je vois le sérieux et l'approche scientifique qui est amenée avec ça, je peux pas nier que ça existe. C'est quelque chose qui est vrai, mais ça paraît tout à fait fou, tout à fait incroyable. Donc, dans le chapitre suivant, c'est justement... je vais t'expliquer exactement toutes ces histoires d'êtres élémentaux, et puis comment est-ce que finalement ça a une logique. Et ça saute aux yeux finalement. C'est totalement évident. Et c'est une fois après avoir compris ça, tu dis, mais pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé plus tôt? Ça paraît si simple. Donc je vais t'expliquer tout ça juste après.